André Gide reçut donc une éducation sévère dont il s'émancipa au fur et à mesure qu'il grandit. Mais l'inquiétude n'a jamais cessé de l'habiter et les récits de sa maturité attestent les hésitations de sa pensée. L'apaisement vient dans les dernières années, avec une plus parfaite connaissance de soi-même, dont témoignent les œuvres autobiographiques. Il naît dans une famille bourgeoise aisée des religions protestantes. Il y reçoit une éducation très stricte à la morale intransigeante qui marquera sa sensibilité. Son enfance est anxieuse, maladive. Son adolescence se place sous le signe de l'amour exalté et mystique qu'il porte à sa cousine Madeleine. Il n'a aucun souci financier et il se met à écrire. Il fréquente donc les milieux symbolistes, se lie d'amitié avec Paul Valéry et avec Mallarmé. Il publie en 1891 les cahiers d'André Walter, dont le héros est un double d'André Gide lui-même. Et dans le texte très intéressant qui est entre autres à la base du mariage, si on peut dire, entre lui et la cousine Madeleine. C'est-à-dire que dans ce texte, il prophétise à sa cousine ce qui lui pourrait arriver si elle ne l'épouse pas. Le changement radical arrive avec le séjour à Biskra en 1893 et 1894. Gide est malade. Il est menacé de tuberculose et il part donc pour la Tunisie. C'est son premier voyage en Afrique du Nord. Et c'est en cette période qu'il aura ses premières expériences homosexuelles. Gide découvre l'éblouissement du plaisir sensuel. Il revient 2 ans plus tard, complètement transformé et avec un sentiment de détachement total envers le monde des intellectuels parisiens qu'il trouve confiné. Revenu à Paris, il publie en 1897 « Les nourritures terrestres ». Il s'agit d'un texte assez particulier, une prose lyrique où on trouve l'influence du naturisme et dans lequel l'écrivain s'adresse à un jeune homme, Nathanaël, pour lui révéler la vie véritable au contact de la terre et de ses joies. C'est un texte construit à partir de l'exaltation du désir, d'une véritable fièvre de l'attente et d'un enthousiasme total envers la vie. Dans ce texte, on a effectivement l'évocation des découvertes et des souvenirs du paradis africain. En 1902, Gide publie L'immoraliste. C'est un récit en partie autobiographique. C'est l'histoire de Michel qui, peu de temps après avoir épousé Marceline, tombe malade et crache le sang. Voilà donc des notes qui sont déjà pseudo dans un rapport avec la vie de l'écrivain. Marceline soigne son mari amoureusement et les deux partent pour Biskra, puis voyagent à travers l'Afrique du Nord et de cette façon, Michel retrouve sa santé. Guéri, il subit à Paris l'influence de Ménalque, un personnage cynique qui l'induit à s'abandonner au plaisir. Marceline, à un certain moment, tombe malade à son tour. Mais Michel, au lieu de s'adonner à la soigner, l'entraîne de nouveau en Afrique du Nord, où la jeune femme s'épuise et meurt. Nous avons là deux textes qui semblent exalter l'immoralité. En fait, les choses ne sont pas si simples et on verra de quelle façon c'est la morale en tant que telle qui constitue un sujet d'intérêt pour cet écrivain. En fait, si on cite rapidement La Porte étroite, que nous pouvons considérer l'un des textes qui font partie de la maturité de l'œuvre de Gide, on voit que dans ce texte, nous avons un personnage féminin, Alissa, qui est une sorte de Michel à l'envers. C'est-à-dire que là où Michel s'est donné au plaisir de la vie, Alissa renonce au plaisir de la vie pour suivre un parcours mystique. L'histoire est très simple. Alissa aime Jérôme, mais elle refuse le plaisir pour entrer par la porte étroite. Et c'est une citation de l'évangile de Luc. Encore, les faux monnayeurs sont un texte qui fait partie de cette maturité inquiète, et c'est un texte dans lequel Gide essaie de construire une vision ample de la société à partir d'une réflexion approfondie sur la morale et sur l'esthétique. Cependant, cet écrivain toujours si attentif à la psychologie humaine s'ouvrit aux autres, s'ouvrit à la connaissance du monde extérieur et fit ce choix voulant assumer le plus possible d'humanité. Il disait, j'ai besoin du bonheur de tous pour être heureux. C'est un voyage au Congo en 1927, en 1925 et publié en 19 ans, dont les cahiers sont, le texte est publié en 1927. Qui le met en face des réalités de la colonisation qu'il dénonce dans ses livres. C'est donc le voyage au Congo et le retour du Tchad, deux textes de 1925 qui constituent une description virulente des relations que les Français ont avec les pays colonisés. Gide adhère aussi au communisme, part en 1936 pour un voyage en URSS, mais il reviendra déçu par l'expérience soviétique. C'est une expérience qu'il va décrire dans son livre Retour de l'URSS 1936. En fait, tous les textes de Gide ont un fond commun, qui est la volonté de s'interroger sur la morale. Les nourritures terrestres sont l'évangile de la libération et exalte le plaisir des sens, la jouissance de toutes choses. L'immoraliste revendique le désir ardent de vivre et la mise en évidence des limites de ce désir, tandis que la porte étroite est l'histoire de quelqu'un qui renonce à son amour et à son bonheur terrestre pour Dieu, et donc devient une façon de s'interroger sur le mysticisme. Encore, les caves du Vatican constituent une œuvre dans lesquelles l'écrivain s'interroge sur la liberté absolue. Le héros, c'est quelqu'un qui accomplit un acte gratuit, il tue sans raison, et ce texte sera un texte qui fascinera les surréalistes. Si l'écran ne meurt, est un texte autobiographique construit à partir d'une sincérité totale qui fera scandale. Les faux monnayeurs constituent une sorte de total de toute cette recherche parce que cette tension foncièrement morale devient une tension de moralité formelle. C'est-à-dire que Gide s'interroge sur, utilise une forme romanesque bouleversée, essaie de renouveler la technique du roman, et de la sorte, va anticiper le nouveau roman. En conclusion, on peut dire que l'œuvre de Gide est caractérisée par une méthode bien précise et une volonté de donner des enseignements, d'avoir un poids sur la société, sur la vie des humains. Donc, la méthode d'Égide est construite à partir d'un culte de la sincérité et d'un sens de la complexité. En ce qui concerne le culte de la sincérité, l'œuvre d'André Gide est dominée par la haine du mensonge et par une exigence permanente de sincérité. Gide dénonce l'hypocrisie sous toutes ses formes. Et surtout, l'hypocrisie qui est cachée chez les hommes les plus respectés. Il dénonce la fausse monnaie des attitudes ou des sentiments. Il s'est donc toujours donné pour règle la nécessité de livrer sa pensée profonde, souvent au mépris du respect humain. C'est une sorte d'effort quotidien qu'il fait, dans lequel on retrouve l'empreinte de son éducation protestante. Et de cet examen des consciences qu'il n'a jamais cessé de pratiquer. Dans ses autobiographies, il note ses doutes, ses hésitations, ses revirements. En fait, Gide ne parvient pas, malgré cet effort constant, à découvrir une vérité stable. Voilà donc le sens des complexités dont on parlait auparavant. Et il se défie des esprits à système. Par exemple, comme La Rochefoucauld. Et il admire, par contre, des esprits asystématiques, non systématiques, comme Montaigne, selon qui l'homme est une créature essentiellement diverse. Il disait de lui-même: Je suis un être de dialogue et non point d'affirmation. Quels sont les enseignements d'Égide? Il était hostile à tous les dogmatismes, mais il a voulu lancer un message aux hommes de son temps. Son influence tardive fut considérable et suscita, vers les années 1920-1930, des controverses violentes. Il est temps désormais, on l'a fait depuis très longtemps, on l'a abordé, on l'a avec sérénité en tout cas. Gide annonce déjà son art de vivre dans les nourritures terrestres. Quand il écrit Nathanaël, je t'enseignerai la ferveur. Mais il faut faire attention parce que ce texte qui effectivement est très caractérisé par une sorte d'égoïsme ou d'égotisme, si on veut utiliser le mot de Stendhal. En fait, Gide s'est constamment préoccupé d'élargir sa formule initiale pour écarter l'accusation d'égoïsme. Le héros de l'immoraliste se demande: donnez-moi des raisons d'être. En fait, Gide se demande à quoi bon s'être libéré si l'on ne sait pas se servir de sa liberté. Comment maintenir en soi la ferveur, si on ne lui propose sans cesse de nouveaux objets. Gide alimente sa ferveur en lui donnant continuellement des nouveaux objets. Il s'efforce en toute occasion d'assumer les plus possibles d'humanité. Parce que pour Gide, la figure de l'homme mérite d'être constamment enrichie. Mais l'œuvre de Gide a été très importante aussi pour sa rigueur formelle. Et c'est, on peut dire, le deuxième aspect de l'héritage d'Égide. Gide, en fait, professe une doctrine littéraire dont la rigueur contraste avec la licence de son attitude morale. Selon Gide, l'art naît de la contrainte, vit des luttes et meurt des libertés. Dans ces textes, la tension au style est constante et très rigide. D'ailleurs, ses goûts d'artiste l'attirent vers le classicisme, dont il admire la discrétion et les dépouillements. Il est toujours attentif au choix du mot juste. Il essaie toujours de fuir les séductions du pittoresque et il donne un exemple de sobriété limpide qui est certainement la plus nette et la plus constante de ces leçons. Revenons donc à l'immoraliste. Œuvre qu'on va lire et qui commence par un exergue significatif. Je te loue, mon Dieu, de ce que tu m'as fait, créature si admirable. C'est une phrase tirée des psaumes. Nous avons là donc deux éléments fondamentaux. D'un côté, la centralité de l'élément morale et de la tradition chrétienne, les psaumes chrétiennes et en tout cas de la Bible. D'autre côté, l'exaltation de l'homme comme créature admirable. Attention donc à l'homme, à sa formation, à ses éléments, mais attention aussi, il faut faire attention aussi au fait que nous avons l'exaltation de l'homme créature admirable dans un texte qui nous décrit l'histoire de quelqu'un qui suit un parcours qui est immoral. Ce texte sera à la base d'une grande polémique parce qu'on dénonça Gide de vouloir exalter l'immoralisme, mais il se défenda en déclarant que son idée était celle d'analyser un sujet, de porter ce sujet jusqu'au bout et non pas d'en faire une exaltation. Consigne. Je vous prie de lire l'introduction et de donner un titre à chaque paragraphe. À la fin, à partir de ces titres, vous devrez individuer les J de l'écrivain et m'envoyer vos travaux, écrits ou oraux, comme vous voulez, par Internet et à travers Moodle. Bonne journée et à bientôt.